Et tout de suite, le premier journal avec Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au Brésil, au moins 9 morts et près de 300 personnes portées disparues selon un bilan provisoire après la rupture d'un barrage minier dans le sud-est du pays hier. Plus de précisions à suivre sur place dans le journal de 8h sur France Culture. Aux États-Unis, après 35 jours de paralysie, c'est la fin du shutdown. En tout cas, la suspension du blocage du vote du budget et du bras de fer entre Donald Trump et la majorité démocrate. Après une durée record, le Congrès a approuvé hier à l'unanimité un accord de sortie de crise provisoire jusqu'au 15 février. Mais le président Trump n'a pas abandonné définitivement son projet de mur à la frontière mexicaine. À New York, Loïc Loury.
Pour le président américain, pas d'autre choix, il faut construire un mur puissant ou une barrière en acier. Donald Trump ne s'avoue pas vaincu, il concède pourtant là une importante défaite. Après 34 jours de shutdown, le milliardaire accepte en effet l'accord provisoire porté par les démocrates, un texte qui n'accorde pas le moindre dollar à son projet pharaonique. Ces trois prochaines semaines, les 800 000 employés fédéraux vont donc pouvoir retrouver leur salaire, ils seront aussi payés rétroactivement et en attendant, eh bien démocrates et républicains parleront sécurité aux frontières sans aucune garantie concernant le mur. Espérons que la leçon a été retenue, a simplement commenté le chef des démocrates au Sénat. Mais rien n'est moins sûr et Donald Trump fait mine d'être imperméable à la pression, celle des sondages comme celle de son camp, celle de centaines de milliers de fonctionnaires en colère et des conséquences bien concrètes du shutdown pour l'économie américaine. Face à ce qui semble être une évidence, le président pourtant n'a pas dit son dernier mot. Non seulement il défend toujours mordicus son projet, mais il menace également une fois de plus d'utiliser l'état d'urgence pour contourner les institutions. Les deux camps ont désormais 3 semaines pour discuter. L'opposition a l'avantage, mais devra faire avec le caractère imprévisible de son adversaire.
Au Venezuela, la situation est toujours explosive depuis mercredi. Le pays compte désormais 2 présidents, Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée par l'opposition, et Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé président par intérim. Hier, Nicolas Maduro s'est dit prêt à rencontrer Juan Guaido, mais le jeune député de 35 ans a refusé lors d'une conférence de presse en plein air devant ses partisans à Caracas, Benjamin Delisle.
Midi sonne sur la place Bolivar de Chacao. Juan Guaido est attendu pour sa première apparition publique depuis le 23 janvier. Après une minute de silence pour les victimes de la répression policière, le leader de l'opposition entame son discours avec une première annonce. Il assure qu'une aide humanitaire de 20 millions de dollars va entrer au Venezuela. Pour Alejandro, 29 ans, c'est un soulagement.
On vit dans un pays où il y a une crise humanitaire totale et absolue. Les gens mangent dans les poubelles, il y a un fort taux de chômage et d'insécurité, les hôpitaux ne fonctionnent plus, ne servent à rien. Donc ce qu'il annonce, c'est une lumière au bout du tunnel et pour ça, on le suivra jusqu'au bout.
Juan Guaido demande d'ailleurs à ses partisans dès ce week-end de s'organiser en assemblée populaire pour étendre la mobilisation dans les villes et les campagnes, ce que Marisol ne manquera pas de faire.
C'est surtout important pour le rapprochement et l'amnistie des militaires et des soldats dont les familles souffrent comme tout le monde. Il faut leur tendre la main pour qu'ils nous rejoignent.
Le président de l'Assemblée nationale a terminé son discours en appelant à une grande marche la semaine prochaine, sans pour autant préciser la date.
Benjamin Delisle, correspondant de France Culture au Venezuela. En France, 2 drones ont survolé hier l'usine nucléaire de La Hague dans la Manche, une opération signée Greenpeace. L'ONG en profite pour pointer aussi un autre dossier, celui du glyphosate et la reculade d'Emmanuel Macron sur l'interdiction qui ne sera pas totalement appliquée en 2021, malgré les promesses du chef de l'État. Le directeur général de Greenpeace, Jean-François Julliard, compte sur les décisions de justice maintenant pour accélérer le calendrier et pense que les condamnations en justice des États est maintenant le seul moyen pour faire avancer la cause écologique.
Contrairement à ce qu'on dit un certain nombre de responsables politiques, notamment M. de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, oui, c'est aussi dans les tribunaux que peut se régler la question du dérèglement climatique et la question des grands enjeux environnementaux. Il y a aujourd'hui dans le monde plus d'un millier de recours juridiques sur la question du climat qui ont été déposés par des citoyens, par des villes, par des collectivités, par des communautés qui se sentent menacées par les conséquences du dérèglement climatique et qui ont surtout le sentiment que leur gouvernement, leurs élus, leurs collectivités locales n'en font pas assez pour lutter contre cette crise-là. Donc ça peut aussi se régler dans les tribunaux. En tout cas, c'est ce qu'on espère et on voit bien que ce mouvement est en train de prendre au niveau mondial.
Jean-François Julliard, l'invité de journal de 22h hier soir sur France Culture avec Maxime Fayolle. Le temps de la pluie au nord d'une diagonale qui va de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté. Soleil éclatant en revanche au bord de la Méditerranée tout au long de la journée. Les températures sont comprises entre -4 et 12 degrés ce matin.